Bonjour à tous. Alors, je suis obligé de commencer comme je le fais à chaque fois en vous disant que je suis très heureux d'être avec vous ce matin et que, en même temps qu'une grande joie, c'est également une grande frustration d'être ici parce que j'ai un train à 12h40. Donc, j'aurai pas l'occasion effectivement de rester davantage et de pouvoir discuter avec les uns et les autres, me faire inviter à manger, à dormir, toutes ces choses très agréables qui se passent quand je viens à Clermont d'habitude. C'est pour moi toujours très émouvant de revenir ici parce que je dis que je reviens vraiment dans ma famille, quoi. Et c'est comme quand les enfants s'en vont, c'est le but, non? Il faut s'en aller un moment, il faut faire sa vie soi-même. Mais revenir à la maison, c'est toujours des moments de joie et d'intense émotion, je dirais. Alors, voilà, sans me retarder davantage, on est aujourd'hui entre le jeudi de l'Ascension et le dimanche de Pentecôte, n'est-ce pas? Donc, on est dans ce temps intermédiaire un peu curieux, dans lesquels les disciples n'avaient déjà plus Jésus à leur côté et n'avaient toujours pas le Saint-Esprit avec eux non plus. Et je me suis intéressé donc à ce moment particulier dans la Bible qu'on trouve dans le livre des Actes, et j'y ai trouvé une sorte de guide de voyage de la vie chrétienne dans ce passage. Et on va voir ce matin que pour effectuer un bon voyage dans notre vie chrétienne, il va nous falloir trois ingrédients essentiels. Le premier, comme pour tout voyage, c'est un objectif clair. Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on veut aller? Quel est notre but? Le deuxième, c'est une bonne carte routière, un bon GPS. Parce que c'est pas le tout de savoir où on veut aller, il faut aussi savoir comment on va s'y rendre. Et le dernier point, évidemment, c'est qu'il faut se mettre en route. Parce que, encore une fois, ça ne suffit pas d'avoir un but, ça ne suffit pas de savoir comment l'atteindre, il faut aussi se mettre en marche et avancer. Non? Donc, on va ouvrir nos Bibles au livre des Actes, au chapitre 1, et les versets 9 à 11. Donc, pour effectuer un bon voyage dans notre vie chrétienne, je l'ai dit, en premier lieu, ce qu'il nous faut, c'est un objectif clair. Et ici, on lit, si je trouve le verset, il est là. Après avoir dit cela, Jésus, donc, il fut élevé pendant que ils, les disciples, le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors, vous savez que le livre des Actes des Apôtres a été écrit par Luc, l'auteur de l'évangile du même nom. Et Luc, dans son évangile, précise un peu la chose quand il dit que les disciples regardaient au ciel. Dans l'évangile de Luc, on voit qu'ils adoraient le Seigneur. Ils étaient dans un moment d'adoration. Et je crois que ça a à voir avec effectivement l'objectif de notre vie chrétienne, qui n'est pas en soi d'adorer, mais qui est d'être en communion parfaite avec Dieu. C'est notre désir et c'est également le désir de Dieu, non? Et alors, j'allais dire c'est anecdotique, c'est pas anecdotique, mais dans le moment de l'Ascension, quand les disciples regardent vers le ciel, quand ils tournent leur regard vers Dieu, ils rencontrent sur le chemin, entre eux et le ciel, Jésus-Christ. Et ça nous rappelle, je crois, ça nous rappelle qu'effectivement, il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et Il y a donc un temps pour regarder vers le ciel. Il y a un temps pour l'adoration. Quand on médite sur la vie de notre Seigneur, sur sa mort, sur sa résurrection, quand on pense à ce qu'il a fait pour nous à la croix, quand on pense que par son œuvre, nous pécheurs, nous sommes justes devant Dieu, je crois que vraiment, quand on y pense vraiment, ça nous met à genoux. Ça nous met dans l'adoration. Et je dis ça nous met à genoux, mais si on est plutôt du style du roi David, alors ça nous met à danser, ça nous met à chanter. Mais en tout cas, ça nous met dans ce moment d'adoration. Et pourtant, arrivent deux anges. Et les deux anges nous rappellent ici qu'il ne faut pas s'arrêter à regarder au ciel. Regarder au ciel, oui. Adorer, oui. Mais s'arrêter, non. C'est-à-dire que on n'est pas appelé à rester indéfiniment dans ce moment d'adoration. Et c'est amusant parce que je pense qu'il doit y avoir au ciel deux anges qui sont vraiment dédiés, qui ont ce ministère-là de faire ce genre d'intervention spéciale, parce que moi, ça m'a rappelé ces deux mêmes, d'ailleurs je dis que c'est les mêmes, je ne sais pas, mais en tout cas, ces deux anges qui vont au tombeau, quand les femmes arrivent au tombeau de Jésus et qu'elles le trouvent vide, 3 jours après sa mort, et elles s'étonnent de trouver le tombeau vide. Et là, deux anges arrivent également et leur disent « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts ?» Autrement dit, dans un cas comme dans l'autre, circulez, il n'y a rien à voir ici. Il n'y a rien à voir ici. On ne peut pas rester planté là, contemplatif, toute notre vie. Sans quitter Jésus des yeux, évidemment, sans quitter des yeux, il faut quitter, à un moment donné, ce moment spécial d'adoration. L'ascension a lieu sur le mont des Oliviers et les disciples sont appelés effectivement à descendre du mont des Oliviers, même si au pied de ce mont, et c'est géographiquement vrai, se trouve le jardin de Gethsémani avec tout ce qu'il peut représenter de douleur et de peine. Et je crois que la vie contemplative, c'est une vraie tentation, peut-être pas pour tout le monde, pour moi en tout cas, ça l'est, c'est une vraie tentation. C'est une vraie tentation, par exemple, Ce serait une vraie tentation que de rester pour moi au séminaire toute ma vie. Qu'est-ce que je suis bien là-bas ? On me parle de Dieu toute la journée, les gens sont sympas, on prie ensemble, et c'est fantastique, on aura envie de rester là. Ça aurait pu être une vraie tentation pour moi que de rester dans cette église parce que j'y étais fantastiquement bien, et c'est pour ça que, quand je reviens, se mêlent la joie et la peine. Mais on n'est pas appelé à ça. Et alors à quoi on est appelé ? Eh bien on est appelé, vous le savez, à ce que nous dit Matthieu dans son évangile, ou plutôt ce que nous dit Jésus dans l'évangile de Matthieu, on est appelé à faire de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et en les enseignant à observer tout ce que Jésus nous a prescrit. Alors pour effectuer ce bon voyage dans notre vie chrétienne, il nous faut également un bon GPS, et je ne résiste pas à donner une petite anecdote du GPS de Simon, qui est un très bon GPS puisqu'il nous a amené au congrès baptiste, mais en arrivant sur le parking du congrès baptiste, son GPS nous a dit faites demi-tour dès que vous pouvez. Alors je ne sais pas s'il a un sixième sens ou quoi, mais voilà, donc le Seigneur fort heureusement nous donne un GPS un peu plus efficace pour entrer en communion avec lui, et c'est ce qu'on va lire maintenant dans la suite du livre des Actes, les versets 12 à 14 du chapitre 1. Et là on lit « Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. » Et donc vous l'avez trouvé notre GPS. Notre GPS, frères et sœurs, c'est la prière. Elle va nous guider. Elle va nous guider parce qu'elle nous met directement en contact avec, si vous me permettez l'expression, notre divin satellite, avec Jésus-Christ. Et ce n'est pas l'affaire de quelques-uns, la prière. Tous, nous dit le texte, tous, d'un commun accord, persévérer dans la prière. Il y a une unité chez les disciples. Ils sont tous là, d'un commun accord. Et on ne parle pas seulement des 11 apôtres ici, on parle de tous les autres, hommes et femmes, même la mère et les frères de Jésus sont là. Le verset 15 qu'on n'a pas lu et qu'on ne lira pas en dénombre environ 120. 120. Il y a des commentateurs qui pensent que c'était peut-être tous les chrétiens de Jérusalem qui étaient réunis là, dans cette chambre haute. La chambre haute est pleine, elle est pleine à craquer. Alors comme l'a dit Samuel, on est quelques-uns à revenir du congrès de la Fédération. Et l'unique commentaire que je voudrais faire par rapport à ça, frères et sœurs, c'est que ça fait du bien, ça fait vraiment du bien de voir pleine la chambre haute. Ça fait du bien de se réunir tous ensemble, ça fait du bien de se réunir pour prier, pour prendre des décisions. Ça fait du bien de se réunir pour essayer de discerner ensemble ce qu'est la volonté du Seigneur. Alors, le congrès de la Fédération est un lieu pour être tous là, tous ensemble, toutes les églises, d'un commun accord. Et ce mot, cette expression d'un commun accord, eh bien, qui a assisté au congrès cette année pourra témoigner qu'être là d'un commun accord, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de débat. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sujet compliqué. Ça ne veut pas dire qu'on doive acquiescer à tout ce qui se dit benoîtement pour s'assurer de rester d'un commun accord. Ça veut dire simplement qu'on est tous là, qu'on est d'accord pour être là ensemble et pour essayer d'avancer ensemble, de construire cette unité dont Jésus fait le centre de sa prière dans le jardin de Gethsémani. Dans l'église de Corinthe, chacun revendiquait son champion. Moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Céphas, moi je suis de Christ. Et Paul coupe court à toute tentative de ce genre. Il dit: Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Alors voilà, bien sûr, je parle du congrès, mais vous aurez compris que c'est évidemment valable pour toute église locale et pour l'église de Clermont-Ferrand également. Alors un autre terme que j'ai trouvé intéressant dans ce texte, c'est le terme persévérer. Et dans persévère, il y a père, mais il y a sévère aussi. Il y a sévère. Alors je ne l'invente pas parce qu'en fait, ça a une étymologie vraiment commune. Le mot persévère et le mot sévère ont une étymologie commune. Et je crois que ce qu'on apprend avec ça, c'est que la prière demande un effort, demande une discipline, une certaine discipline. Je crois que c'est une activité qu'on peut laisser très facilement de côté parce qu'on a toujours 1000 choses à faire, on a toujours des journées très chargées, on a toujours mieux à faire, plus important et en tout cas plus urgent. Le problème, c'est qu'on l'a vu, c'est notre GPS, la prière. Et celui qui éteint son GPS, il se perd. Et il n'y a pas de sens de l'orientation dans ce cas-là, ça ne marche pas. Si on éteint le GPS, on finit par se perdre. Mais il y a une bonne nouvelle également, c'est que si on rallume le GPS, vous savez comment fonctionnent les GPS, il ne vous fait pas refaire le chemin à l'envers pour reprendre la bonne route. Il recalcule de là où vous êtes, de là où vous êtes perdu, même si vous êtes bien perdu, il recalcule et il vous ramène sur le chemin le plus adéquat pour revenir sur la bonne route. Non ? Alors, c'est ça la question d'ailleurs. La question, c'est bien d'être en route. Et c'est le troisième point pour effectuer un bon voyage dans notre vie chrétienne, évidemment. Et même si ça peut paraître évident, il faut se mettre en route. À l'adoration et à la prière doit succéder l'action. Alors dans le cas qui nous occupe, dans le cas des disciples de la chambre haute, l'action consistait à remplacer Judas, l'apôtre qui avait trahi Jésus. Pierre se lève donc au milieu des disciples et après avoir rappelé la chute de Judas, il déclare ce qu'on peut lire au verset 20 à 26, on fait un petit saut dans notre lecture, et ici on lit: Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite, et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soient associés comme témoins de sa résurrection. Ils en présentèrent deux. Joseph, appelé Barsabbas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière. « Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi. » Afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Alors, il y aurait beaucoup à dire sur le fond de ce message, mais on va s'intéresser un peu à la forme, c'est-à-dire à comment ont procédé les disciples pour rentrer dans l'action. Et on va voir trois choses. D'abord, on va voir qu'ils basent leur décision sur l'autorité des Écritures. Ensuite, on va voir qu'ils placent leur décision dans la prière. Et enfin, ils s'en remettent à la souveraineté de Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui décidons, c'est Dieu qui décide à la fin, dans ce cas-là. Alors, dans un premier temps, la décision de remplacer Judas se base sur l'autorité des Écritures. Pierre mentionne ici deux passages qui sont tirés du livre des Psaumes pour justifier sa proposition de remplacer Judas. Et plus exactement, il applique à Judas des paroles qui concernaient, en réalité, dans les Psaumes, les ennemis du roi David. Alors ça peut paraître étrange, peut-être, de procéder ainsi, non ? Et pour comprendre cette bizarrerie, il faut que j'étale un petit peu ma science, il faut que je vous montre que j'ai appris des choses quand même. Il faut comprendre un mot théologique. Vous aurez peut-être déjà entendu dire, ou sans doute déjà entendu dire, que David est un type du Christ. Alors, type, c'est un mot qui vient du grec typos et qui peut se traduire, j'aime bien cette traduction pour tout dire, par marqué d'une empreinte. Ça veut dire qu'il y a des moments de la vie de David, à certains moments de sa vie, David était marqué de l'empreinte du Christ. On va le voir un peu plus clair en regardant un peu ces passages. Donc les deux passages cités par Pierre, que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge, proviennent des psaumes 69-26 et 109-8. Et dans le psaume 69, on a un exemple clair, je crois, de David comme type du Christ, en particulier au verset 22, vous allez voir que ça va vous sonner. Ça, c'est de l'espagnol traduit en français, désolé. Ça va vous parler, je pense. Psaume 69, donc au verset 22, on voit que David se plaint de ses ennemis en disant « Pour apaiser ma soif, il m'abreuve de vinaigre ». Et c'est David là qui parle de ses ennemis. Et ça nous rappelle évidemment le récit de la Passion avec l'éponge de vinaigre non, qui a été tendue à Jésus pour, entre guillemets, apaiser sa soif. Voilà, donc dans ce passage, peut-être on comprend mieux ce que c'est qu'un type. Et donc, de la même façon que Christ, que David est type du Christ, eh bien Pierre applique à Judas ce que David applique et souhaite à ses ennemis. Et donc, voilà, on le voit, Pierre s'appuie sur les Écritures. Une fois la décision prise, les disciples la remettent donc dans la prière. On retrouve une nouvelle fois le GPS, une nouvelle fois le tous et le d'un commun accord. Et il faut bien admettre que ce tous et d'un commun accord ne participent pas beaucoup à écourter les assemblées générales. Mais, vous l'avez vu, les disciples dans la chambre haute, ils avaient un truc absolument imparable, fantastique, pour écourter ces assemblées, le tirage au sort. Alors, je vous propose qu'on fasse une petite simulation de cette méthode. Je vais avoir besoin d'un volontaire, si quelqu'un veut passer. Il faudra danser ici, après... Non, c'est pas méchant. Voilà. Donc j'ai là une monnaie, et je vous propose de soumettre certaines questions qui sont sorties aux assemblées générales, je pense, dernièrement, à cette méthode, et on va voir qu'effectivement elle est assez efficace. Voilà, donc je vais mettre la monnaie dans une de mes mains, et puis on va dire, par exemple, est-ce qu'il faut continuer avec le parcours alpha ? Donc, on arrête le parcours alpha. Alors, on va faire ça avec une autre question. Voilà. Est-ce qu'il faut que l'Église déménage ? Vous restez par ici. Et donc, une dernière question. Est-ce qu'il faut continuer de me soutenir dans mes études ? C'est très bien. Voilà. Bon, en tout cas, ben voilà, je vous ai réglé la prochaine Assemblée Générale. Ça, c'est terminé. Alors, je crois qu'on est étonné, évidemment, de cette manière de faire, non ? On est étonné. Mais on est aussi un peu envieux, peut-être, je ne sais pas. Mais cette méthode de tirage au sort pour discerner la volonté de Dieu, quand même, elle apparaît à un moment très particulier de l'histoire de l'Église. Et je crois qu'il faut faire deux remarques à ce sujet. D'abord, c'est que cette méthode n'a évidemment jamais été employée quand Jésus était sur Terre, pour des raisons évidentes. S'ils avaient une question, ils la lui posaient. Et ce qui est plus frappant aussi, c'est qu'il n'y a pas constance qu'elle ait été utilisée après la Pentecôte, cette méthode. Parce qu'après la Pentecôte, nous avons l'Esprit Saint. Nous avons l'Esprit Saint pour nous guider. Alors c'est moins rapide, on le voit chaque année, mais je crois qu'il faut aussi admettre que c'est beaucoup plus stimulant et beaucoup plus édifiant. Alors la vraie question, ou plutôt la vraie réponse à la question, je crois que c'est, et c'est le dernier point, c'est la soumission à la souveraineté de Dieu. Dans le cas des disciples, ils ont reconnu que la volonté de Dieu allait s'exprimer par ce tirage au sort, et ils se sont soumis au résultat de ce tirage au sort. Je crois, j'espère pas trop m'avancer, que dans notre assemblée générale, dans nos assemblées générales ou dans les décisions qu'on doit prendre, on doit confier, vraiment, on doit confier que le Saint-Esprit nous guide. Et je crois qu'il est sage de se soumettre effectivement à ce qui ressort de ces assemblées générales, pour cette même raison. Alors, Dieu ne nous guide pas à travers le vide. C'est la raison également pour laquelle le fait d'être aujourd'hui accompagné de l'Esprit-Saint n'enlève rien à l'importance des deux premiers aspects que nous avons vus, c'est-à-dire l'autorité de la Bible, et donc sa lecture, son étude, et puis la prière. Alors, j'allais sauter ce passage, mais je crois que je vais le dire parce que... Je pense qu'effectivement, la lecture de la Bible et la prière, ce sont deux aspects vraiment, je l'ai déjà dit pour la prière tout à l'heure, mais ce sont deux aspects qu'on laisse facilement de côté, non ? Qu'on abandonne facilement, et je m'inclus évidemment là-dedans. Et j'ai envie de dire, comment ne serait-ce pas le cas ? Parce que c'est le lieu de notre relation avec le Seigneur. C'est le lieu où, par sa parole, on peut l'entendre, on peut l'écouter, et par la prière, on peut lui parler. On peut l'écouter aussi par la prière, bien sûr. Donc, c'est un lieu d'attaque privilégié, évidemment, par Satan, qui ne souhaite pas cette relation. Et on retrouve cette nécessité de la persévérance. Alors, pour conclure, comme nous l'avons vu, pour effectuer un bon voyage dans notre vie chrétienne, il est nécessaire d'avoir bien clair notre objectif. En ce qui nous concerne, c'est d'être en parfaite communion avec le Seigneur. Pour cela, il n'y a qu'un seul chemin, Jésus-Christ, lequel nous guidera à coup sûr à chaque fois qu'on branchera le GPS, à chaque fois qu'on se remettra devant lui dans la prière. Et évidemment, il faut nous mettre en route, dans l'action. Une action qui se basera sur l'autorité des Écritures, qui se laissera guider par le GPS de la prière, et finalement, qui se soumettra à la volonté souveraine de Dieu. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle Seigneur, Seigneur. Alors j'ai dit au début que nous étions entre deux dates, entre l'Ascension et la Pentecôte. Et du point de vue du calendrier, c'est tout à fait exact, évidemment. Mais c'est faux du point de vue de l'histoire. Ce qu'il manquait encore aux disciples de la chambre haute pour effectuer un bon voyage dans la vie chrétienne, nous l'avons aujourd'hui. C'est l'Esprit Saint. Ce même Esprit Saint qui a guidé les premiers disciples hors de Jérusalem, d'abord en Judée et en Samarie, puis petit à petit jusqu'en Grèce, jusqu'à Rome, prêchant à qui voulait l'entendre la bonne nouvelle, et même à qui ne voulait pas l'entendre, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et je crois que c'est là notre tâche aujourd'hui, c'est là notre mission. Adorons notre Seigneur, remettons-nous à lui dans la prière et en route